Bonjour à chacun. Bon et beau dimanche, on vous souhaite. Et c'est avec plaisir que je vous accueille ce matin, au nom de l'Église évangélique de Mérin, bien sûr, mais surtout au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bienvenue à vous tous qui êtes présents ici ce matin, et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous via la petite fenêtre de leur écran. Ce culte étant diffusé en direct par la magie des ondes. Je tiens à remercier Eric qui permet cette diffusion. Reconnaissance également à Sylvain qui est notre pianiste du dimanche. Et merci à notre pasteur Philippe qui nous apportera le message. Nous allons vivre un culte un peu particulier, comme tous ces derniers cultes et ces derniers dimanches, car Covid-19 oblige, vous le savez, nous ne pouvons pas vivre ensemble, par exemple, ce point culminant du culte qu'est la Sainte Cène, la communion entre chrétiens et avec notre Seigneur Jésus-Christ. On espère pouvoir le faire bientôt. Nous ne pouvons ni chanter, pour différentes raisons qu'on peut comprendre, nous ne pouvons pas chanter de tout notre cœur et à pleine voix à la gloire de notre Seigneur et notre Dieu. Nous vivrons tout de même un temps de louange, un peu particulier. Je vous explique. On a choisi quelques chants. Je vais lire les paroles de ce chant ou les résumer. Et ensuite, Sylvain interprétera une fois, deux fois, un ou deux couplets au piano. Et nous pourrons les chantonner à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur, ou à toute petite voix. Et ceux qui ont des masques peuvent chanter. Alors, le premier chant, ce matin, c'est le Gem 565, dans la maison du Père. Et je vais lire donc les paroles. Après, Sylvain va chanter, va jouer, et nous pourrons chanter ces paroles avec lui. Alors, c'est bien d'entendre aussi les paroles de ces chants, plutôt que de les chanter, des fois on n'y pense pas, ou on les chante un peu par habitude. C'est des chants connus qu'on a choisis ce matin. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés. Avec la terre entière, nous proclamons ta bonté. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur, auteur de notre joie. Nous te bénissons, libérateur. Nous t'adorons, notre roi. À genoux, devant ta majesté, nous bénissons ton saint nom. Prosternés devant ta sainteté, nous, tout émus, nous t'adorons. Alléluia, nous reconnaissons ta grandeur, ta vérité. Tous unis, nous nous réjouissons, nous célébrons ta bonté. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés. Avec la terre entière, nous proclamons ta bonté. Thank you. Merci Sylvain. Voilà, depuis quelques jours, c'est le mois de juillet. Ça veut dire quoi le mois de juillet pour beaucoup d'entre nous? C'est le début de l'été, je dirais même le début des vacances d'été. L'occasion pour bien quelques-uns d'entre nous et de nos contemporains de partir, de se reposer, de se changer les idées. Au loin, quoique ces temps ne va pas trop loin, ou plus près, en Suisse par exemple. Pour ma part, avec mon épouse, nous partons facilement pour un temps de repos, de changement et surtout de découverte. Et cela nous arrive assez souvent. Et il y a quelque temps, j'ai reçu cette petite carte, vous ne la voyez peut-être pas, ornée d'une voiture avec des bagages dessus, une voiture qui roule, on voit qu'elle fonce, où le texte suivant est inscrit « Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. » Ce verset a été donné à Jacob et je l'ai pris pour moi comme une promesse. « Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. » Et cette promesse, je vous la transmets de la part de Dieu à chacun d'entre vous, ici ou derrière votre écran. Que vous partiez physiquement quelque part, ou que vous voyagiez à l'intérieur de vous-même, parce que là aussi on peut faire des sacrés beaux voyages, on peut réfléchir à ce qu'on vit, à ce qu'on est, à ce qu'on donne. Eh bien, il te garde, il est avec toi. En réponse à cette promesse, nous sommes appelés à rester en communion, en relation avec notre Dieu par Jésus-Christ. Ce sera d'ailleurs notre premier chant, mais d'abord, je vous invite simplement à remettre ce temps dans la prière. Seigneur Jésus, oui, nous voulons te remercier, car tu es avec nous depuis toujours. Mais tu nous promets que tu ne nous abandonneras pas, que tu ne lâcheras pas notre main, qu'en toutes circonstances, tu es là avec nous et tu nous accompagnes et tu nous portes. Et c'est à ce Dieu-là, ce matin, que nous voulons rendre gloire, que nous voulons remercier et te dire merci pour ta fidélité et ta grande bonté à notre endroit. Nous te remettons ce temps de culte, nous te remettons Philippe qui va partager la parole avec nous, nous te remettons chacun d'entre nous, ici ou à la maison, que les paroles, que ce temps puisse nous faire du bien, mais surtout être à ta gloire et à ta louange. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Le deuxième chant que j'ai prévu pour ce matin, c'est un chant numéro 521, pardon. C'est auprès de Dieu. Oui, en réponse, c'est auprès de Dieu qu'on peut se tenir. Je lis le texte. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. deuxième chant que nous allons chantonner, c'est le numéro 75. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a tant aimé. Mais il y a des choses qu'on peut saisir et ressentir. Et dans ce chant, il dit, je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a aimé. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Je vous lis ces quelques versets. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et je reçus mon sauveur. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau, l'époux, notre époux, dans sa gloire, avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Notre Sauveur, Jésus, a été élevé. Après tout ce qu'il a fait pour nous, il a été élevé à la droite de Dieu. Et nous le contemplons dans son règne. Et nous disons à toi, Jésus, toi qui t'es donné, qui as tout lâché, aujourd'hui, à toi la gloire, à toi la victoire, par tous les siècles. Amen. Alors le titre, c'est « À l'agneau de Dieu », le 519, dans les J'aime l'Éternel. Voilà les paroles. « Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle, c'est nous, c'est son Église, disent « Viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'Époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples, toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de ton nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Merci beaucoup, Sylvain. Après ce temps de louange, nous avons le privilège d'entendre la parole de Dieu, ce qu'il a à dire pour chacun aujourd'hui, pour les jours qui viennent. Et il y a une lecture biblique qui accompagne, ou plutôt qui précède, la méditation d'aujourd'hui, qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, les versets 21 à 43. Jésus donc revient de la Décapole, le pays des 10 villes, d'un territoire païen, où là-bas il a guéri un homme qui avait beaucoup de problèmes et qui vivait dans les tombeaux. Et Jésus regagne l'autre rive, embarque. Une foule de gens s'assembla autour de lui, alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Un des dirigeants de la synagogue, nommé Jaïros, arriva. Il voit Jésus, tombe à ses pieds et le supplie avec insistance. « Ma petite fille est mourante, dit-il. Viens, viens, viens poser les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui. Une grande foule le suivait et on le pressait de tous les côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés, tu demandes qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme tremblait. Elle tremblait de peur parce qu'elle savait que ce qui lui était arrivé. Elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme Jésus parlait encore, des gens arrivent de la maison du dirigeant de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Mais Jésus, surprenant ces paroles, dit au dirigeant de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean son frère. Ils arrivent à la maison du dirigeant de la synagogue où Jésus voit l'agitation et les gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il leur entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais ils se moquèrent de lui. Alors il les fait tous sortir, prend avec lui le père, la mère et ses trois disciples. Puis il entre dans la pièce où se trouve l'enfant. Il la prend par la main et lui dit, « Talita, cum !» Cela se traduit, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » La jeune fille, qui avait 12 ans, se leva aussitôt et se mit à marcher. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Mais Jésus leur recommanda fermement de ne le faire savoir à personne et il dit de lui donner à manger.
Bonjour à chacun, chacune. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Nous l'adorons. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Nous l'adorons. Nous parlons de Jésus-Christ. Nous lisons la vie, l'œuvre, les paroles de Jésus-Christ dans les évangiles. Jésus, qui est-il vraiment ? Pourquoi est-ce que les chrétiens, les chrétiennes, sont tellement attachés à ce nom-là, Jésus, Jésus-Christ ? Pourquoi en faire tout un plat ? Qu'est-ce qu'il a, lui, de tellement spécial ? Nous nous arrêtons ce matin quelques instants sur ce passage que Paul Robert a pris le soin de lire. Pour tout vous dire, c'est probablement mon passage préféré des quatre évangiles. Il nous montre Jésus qui fait face à la détresse humaine. Il nous montre Jésus qui fait face à une maladie incurable et à la mort. Voilà deux personnes désespérées. Un homme très respecté dans sa communauté, un homme très pieux. Sa fille est en train de mourir. Et une femme qui souffre d'une maladie incurable qui l'a ruinée et qui la coupe du reste du monde. deux personnes qui, comme dans un film, voient leur destin se croiser. Pour la femme, on ne sait pas grand-chose d'elle. Elle habite du côté de Capernaum, sur les bords du lac de Galilée. Elle a eu de l'argent, mais elle n'en a plus. Elle souffre d'hémorragie depuis 12 ans. Ça la fatigue, ça l'inquiète, ça la mine. Et surtout, tout juif savait cela, ça la rendait impure pour rentrer dans le temple. Ça la rendait impure pour certains repas de fête. Ça la rendait impure pour quantité de gestes de la vie quotidienne. Une invisible. Je la vois, cette femme, pauvre. Je la vois seule. Et je la vois désespérée. Et elle a maintenant une idée folle. Elle a entendu parler de Jésus, ce rabbin au pouvoir miraculeux. Si elle pouvait toucher ne serait-ce que le bord de son vêtement, ce pouvoir miraculeux déteindrait sur elle. Elle serait bénie. Elle serait guérie. Mais comment une femme comme elle peut-elle s'approcher d'un homme comme lui? Un saint homme. Un homme qui doit déployer toute son intelligence pour se garder pur. Un saint homme entouré de ses disciples, tous plus zélés les uns que les autres pour le protéger. Un saint homme très au-dessus des autres. Alors, elle se dit ceci. Elle va s'approcher de Jésus quand il sera en ville. Elle sera cachée dans la foule, une invisible. Elle touchera Jésus par derrière. Elle frôlera la frange du bord de ses vêtements. Personne ne le saura et elle sera guérie. Une foule de personnes bouscule Jésus ce jour-là, le texte le dit. Une seule le touche par la foi. Et elle est guérie instantanément. Et Jésus a senti qu'on le touchait ainsi. Et il veut savoir qui l'a fait. Et la pauvre femme prend peur. Le saint homme va me gronder. Parce que j'ai osé le souiller. Parce que je l'ai rendu impur. Il me rejettera comme tant d'autres l'ont fait jusque-là. Mais non, rien de tout ça. Cette femme reçoit les félicitations du maître. Verset 34. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. La pureté rituelle, très peu pour Jésus. La pureté rituelle, mais c'est la vie d'un être humain qui est bien plus importante. Ici, la vie d'une femme qui est bien plus importante que la pureté rituelle. Une femme guérie. Qu'est-ce que je déduis pour moi quand je lis ce texte-là ? Eh bien déjà, pouvoir surnaturel de Jésus qui a marché dans les rues de la Galilée. Son pouvoir surnaturel. Il y a une notation intéressante dans ce texte quand il est dit que Jésus sent qu'une force sort de lui. Il mériterait qu'on passe des heures là autour, hein, mais son pouvoir surnaturel. Et puis la compassion de Jésus. Sa façon d'accueillir des gens que tout le monde méprise et qui se méprisent peut-être eux-mêmes. L'accueil radical de Jésus, la grâce inclusive de Jésus et l'importance de la foi, même hésitante, même maladroite, l'importance de la foi qui sauve. Aujourd'hui, plus personne ne peut toucher les vêtements de Jésus. Mais tous et toutes, comme si nous étions seuls au monde, nous pouvons l'atteindre par la foi. Même hésitante, même maladroite. Non pas pour lui arracher des miracles, mais pour qu'il nous guérisse de nos maux et qu'il nous remette d'aplomb. Parfois, en réponse à la foi, nous guérirons d'un mal physique. Parfois, en réponse à la foi, nous saurons endurer ce mal en attendant la guérison totale qui nous sera réservée dans la gloire. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Il suffit de tendre la main de la foi, même hésitante, même maladroite. Même pas dans les clous de la religion et des rites. Il suffit de tendre la main de la foi et nous serons changés. Maintenant, est-ce que le chef de la synagogue, Jaïrus, avait la foi? Oui, au début, certainement. Sinon, il ne serait pas parti de chez lui à la recherche de Jésus. Puis, il apprend que sa fille est morte et qu'il serait inconvenant pour lui d'importuner davantage le maître. Mais Jésus lui dit de ne pas avoir peur et de croire, verset 36. Dites-moi, il est possible de croire quand on vous annonce que votre fille de 12 ans est morte? Je me demande si Jaïrus n'a pas dit, comme un autre papa le dira un peu plus tard, « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. » Il a sans doute assez de foi pour laisser faire le Seigneur, mais pas plus. En tout cas, ce qui est mis en évidence ici, ce n'est pas la foi de Jaïrus, mais c'est l'autorité de Jésus qui prend le commandement des opérations. Il refuse de rebrousser chemin quand on lui dit que la jeune fille est morte. Il sélectionne ses trois disciples les plus proches et seulement ces trois-là, pour l'accompagner, verset 37. Il proteste contre tous ces gens qui sont venus pleurer avec la famille, verset 39. Il annonce que la fille n'est pas morte. Il s'impose auprès des parents. Il dit deux mots et la fille se lève. Talita kumi. Est-ce qu'elle est vraiment morte? Certains pensent que c'était plutôt un coma profond qui a induit la famille en erreur et que Jésus avait somme toute raison de dire « Elle n'est pas morte, mais elle dort. » L'évangile de Luc, qui rapporte le même événement, dit que les gens savaient que la jeune fille était morte, Luc 8, 53. Que les gens savaient que son esprit était revenu en elle, Luc 8, 55. Je pense donc que Jésus a dit à la foule quelque chose qui pouvait être pris de différentes manières pour éviter d'attirer l'attention sur lui. De plus, toute personne entrant dans la maison où reposait un cadavre était impure pendant 7 jours, nombre 19, verset 14. Jésus avait donc toutes les raisons du monde pour mettre l'accent sur le fait que cette mort temporaire était pour lui comme un sommeil. Et devant les 5 témoins, 3 disciples et 2 parents, devant 5 témoins, Jésus dit 2 mots. Talita kumi. Ce sont des mots si mémorables que nos évangiles écrits en grec les gardent tels quels en araméen, et Marc doit les traduire pour nous. Talita kumi. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Voilà ce que ça veut dire. Mais c'est tellement mémorable que les manuscrits grecs choisissent de garder ces 2 mots en araméen. Des mots tellement banals. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Mais la fille en question est morte. Et elle se lève. C'est un miracle si fort, si frappant, que Jésus ne veut pas que les gens en parlent, verset 43. Il ne veut que les 3 disciples et les parents à ses côtés. Il dit à la foule des pleureurs que la fille ne fait que dormir. Il insiste pour que les gens n'en parlent pas après. Manifestement, Jésus n'a pas ramené la fille à la vie pour se faire de la publicité. Il ne veut pas générer un grand enthousiasme populaire. Il ne veut pas attirer trop tôt l'attention des autorités, surtout pas en Galilée. Mais il est confronté à une vraie grande détresse. Il est confronté à son véritable ennemi, la mort. Alors, la compassion l'emporte sur la stratégie. La compassion l'emporte sur la communication. La solidarité concrète l'emporte sur le qu'en dira-t-on. Et Jésus montre qu'il est plus fort que la mort. Revenons dans la chambre de la fille de Jaïrus. Vous imaginez un peu la scène, la stupéfaction des parents, la stupéfaction des 3 témoins, les cris, les pleurs, l'émotion, les embrassades, la bousculade quand la nouvelle se répand dehors. La peur, peut-être, la peur d'avoir été l'espace de quelques instants si près de Dieu, d'avoir vu Dieu dans ses œuvres de façon si directe, si imposante. La confusion aussi. Mais il avait dit qu'elle n'était pas morte. Pourtant, on l'a vu décliner. On a envoyé dire au père qu'elle était morte. Les voisins sont venus. On a même payé des musiciens professionnels pour venir jouer de la flûte. On était sur le point de sortir de la chambre avec elle pour la porter en terre. C'est un coup monté, c'est un scandale. Et dans ce brouhaha, une personne est complètement perdue. Elle ne sait pas où se mettre. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas ce qui lui arrive. Son père n'arrête pas de réciter des prières. Sa mère la couvre de ses larmes, l'étouffe dans ses bras. Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Je me sens faible. Et une seule personne garde les pieds sur terre et pense à elle. Donnez-lui à manger, dit Jésus. Qu'est-ce que nous découvrons là autour? Non plus l'importance de la foi, mais toujours le pouvoir surnaturel de ce Jésus qui a marché dans les rues de Galilée. La compassion de Jésus, son attention aux personnes, son autorité jusque sur la mort. Il a ressuscité cette jeune fille. Il ressuscitera Lazare. Il ressuscitera lui-même hors de la tombe. Il donne la vie à qui il veut, en abondance. Vous pouvez compter sur lui. Vous pouvez compter sur lui. Infiniment plus que ce que vous pouvez penser. Vous pouvez compter sur lui. Il n'y a pas beaucoup de résurrections physiques dans les évangiles. Seulement 3, je crois. Et ces 3 personnes auront à mourir à nouveau, ce qui n'est pas forcément un cadeau. Mais en attendant, eux et leur entourage pourront dire plus fort que quiconque que Jésus est le Messie, qu'il est la résurrection et la vie, qu'en lui est la vie. Quand je lis ce texte, je me pose la question suivante. Quelle réaction tu peux avoir devant ces récits? À quoi ça t'amène? Qu'est-ce que ça provoque chez toi? J'aimerais nous encourager à envisager 3 réactions. D'abord, la foi. Nous avons ici et dans l'ensemble des évangiles un Jésus qui est digne de notre confiance. Il a lui-même vaincu la mort. Il est vivant aujourd'hui. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Il est tout à fait normal et logique. Il est presque banal de lui faire confiance. Lui faire confiance pour le plus grand des problèmes que nous avons à résoudre. Le péché qui nous sépare de Dieu. Et qu'il nous pardonne, qu'il nous remet. La réconciliation assurée avec Dieu son Père, qui devient notre Père. Lui faire confiance pour les problèmes du quotidien, les petits et les grands. Ce qu'il a fait pour une femme officiellement exclue de la présence de Dieu et pour une jeune fille sans vie, il se propose de le faire pour toute personne qui porte encore le poids de ses péchés, de ses travers, de ses chaînes, de ses maladies. Sa grâce est radicale et inclusive. Ses réponses taillées sur mesure, pour des personnes en difficulté, il peut nous en apporter à nous tous et toutes aujourd'hui. Il suffit de lui faire confiance. Nous pouvons donc lire ces récits et répondre par la foi. Même maladroite, même hésitante, mais la réponse de la foi. Je crois. Le voulons-nous? Ça, c'est une autre question. Voir et croire, ce n'est pas tout à fait pareil. Nous ne voyons plus aujourd'hui cette concentration de miracles instantanés que Jésus a réalisé sur cette terre. Mais ce que nous voyons dans les évangiles nous porte à croire que notre expérience quotidienne ne dit pas tout. Nous espérons plus. Nous espérons mieux. Nous attendons fermement le jour où le Seigneur nous dira « Lève-toi, lève-toi, lève-toi !» Ce jour où il n'y aura plus ni deuil, ni maladie, ni péché. Nous attendons plus. Jésus nous a donné ici un avant-goût du ciel. Il a ouvert l'horizon qui nous attend. Nous espérons fermement la suite. Confrontés à la personne de Jésus, notre réaction peut donc être celle de la foi. Je crois. C'est pas simple, mais je crois. Notre réaction peut être celle de l'espérance. J'attends mieux, j'attends plus, j'attends la vraie dimension. Et elle peut être aussi celle de l'amour. Il se laisse toucher par des intouchables. Il s'intéresse à une fille de 12 ans qui a faim. Ce que ça me dit, c'est que nous comptons pour lui. Nous avons de la valeur pour lui. Chacun, chacune, infiniment de la valeur pour lui. Alors nous l'aimons. La Bible dit à ceux qui sont venus après Jésus, nous l'aimons sans l'avoir vu. C'est dans 1 Pierre 1, au verset 8. Vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Et pourtant, vous l'aimez. En plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer. Nous ne le voyons pas. Nous lisons des portions de ce qu'il a fait. Nous nous les approprions par la foi. Nous savons que le meilleur est à venir. Et nous l'aimons. Quand nous découvrons Jésus, et je conclus avec ça, quand nous découvrons Jésus, nous n'en sortons pas indemnes. Notre vie change. Et notre action dans la vie change. Quand nous lisons ce récit dans l'évangile de Marc, nous réagissons par la foi, par l'espérance et par l'amour. Mais le plus grand des trois, c'est l'amour. Amen.
Merci Philippe de nous avoir rappelé ces facettes d'amour de notre Sauveur. C'est vrai que c'est auprès de lui qu'on veut se tenir. C'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi il nous a tant aimés. Mais cette attitude du Christ face à la détresse humaine, c'est quelque chose d'extraordinaire. quelque chose à redécouvrir, à re-ressentir. Et je vous propose de passer un petit temps dans la prière libre, à haute voix ou à l'intérieur, que ceux qui veulent s'exprimer le fassent librement. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour les enseignements, ce que tu as voulu nous dire ce matin. Et nous reconnaissons que tu es la vérité, tu es l'amour pour chacun. Seigneur, dans nos manques de foi, dans nos détresses, dans nos oublis, dans nos infidélités, tu es toujours là. On a l'impression que tu remets toujours l'ouvrage sur le métier en nous disant « Je suis avec toi, je te garderai, je t'aime, viens à moi. » Pour cet amour, sans aucune condition, nous voulons encore te remercier. Et nous voulons, en te remerciant, te dire, nous voulons essayer de le proclamer aussi autour de nous, de le transmettre, de le dire, de le vivre. Aide-nous, Seigneur, viens au secours de notre foi, de nos faiblesses, de nos manquements. et que nous soyons témoins, ambassadeurs de cette bonne nouvelle en toi. Tu nous accueilles. En Jésus, nous te prions. Amen. Nous allons chanter ou chantonner. J'ai choisi, sachant un peu le thème que Philippe voulait nous donner, un chant très connu, numéro 28, est tiré d'un texte d'Ésaïe dans la Bible, chapitre 54, verset 10. Dans ces détresses que nous pouvons traverser, ce chant dit « Quand les montagnes s'éloignerait, quand les collines chancelleraient. » Et il répète, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il le promet. Et il nous dit, mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines viendraient à chanceler dans nos vies, quand les montagnes s'éloignent, Dieu fera tout comme il le promet. Nous pouvons chanter à mi-voix ce chant. Un chant ancien, mais toujours nouveau. Voilà, c'est la fin de ce culte, ou presque. Je vais demander à Elisabeth, je crois qu'elle a quelques annonces. Je veux juste en faire une. J'ai reçu de la mission évangélique pour Madagascar les petits bulletins de nouvelles. Ceux qui en désirent, ils sont soit déposés là-bas sur la mer, ou me le demander et je vous l'apporterai. C'est la même, la mission évangélique de Madagascar.
Bonjour. Alors, les annonces. Donc, le mémo juillet et août est disponible sur le site où il y a des versions papier sur le présentoir. Donc, vous rappelez que ce n'est pas nécessaire de s'inscrire pour les cultes, ni du matin, ni pour l'air d'été du soir, donc méditation et partage, mais on s'inscrit, comme vous avez vu ce matin, à l'entrée. Déjà vous dire que le culte du 19 juillet, ce sera un culte enfant compatible, dit Denise. Ça veut dire que ce n'est pas un culte pour les enfants, mais que les enfants seront participants. Donc voilà, déjà vous l'annoncez, et que les familles puissent venir. Pour l'offrande, donc pour le moment c'est toujours, il y a le panier, une boîte à la sortie, possibilité de faire un don fait par Twint ou sur le compte de l'église. Le conseil tenait à vous faire un petit compte-rendu du colloque du 16 juin, par correspondance donc. Donc vous aviez reçu tous les documents et vous étiez appelé à voter pour un certain nombre de questions. Alors les scrutatrices désignées, Clémentine et Francine, ont dépouillé les bulletins. Merci à elles. Et on a eu une bonne surprise, il y a eu une bonne participation, beaucoup de votants. Donc merci, c'est très bien. Alors les comptes 2019, le rapport des vérificateurs des comptes, le budget 2020 ont été approuvés, on va dire, à la quasi-unanimité. Alors merci pour votre confiance et pour votre générosité qui nous ont permis d'honorer nos engagements. Et un grand merci à Michel, notre trésorier. Trésorier d'une église, contrairement à ce qu'on peut peut-être penser, c'est une fonction qui est très exigeante, très complexe. Et je crois que ça lui a donné quelquefois du fil à retordre, mais il s'en est très, très bien sorti. Et on aimerait lui dire un immense merci. Merci aussi aux vérificateurs des comptes et merci aussi et félicitations aux vérificateurs des comptes 2020 qui ont été aussi brillamment élus. Voilà pour ce qui est. Il y aura un PV qui sera fait, vous le recevrez lors d'un prochain colloque, avant le prochain colloque. Maintenant, Claude a aussi une annonce à faire, alors je lui donne la parole.
Peut-être que si vous vous baladez dans la commune, vous avez vu placarder un petit peu cette affichette donc de Merin-les-Bains. Donc ça fait 15 jours que c'est en route. Et puis nous, en tant qu'église évangélique de Merin, nous allons y participer par un repas et un film. Donc ça sera demain soir, dès 18h. Donc c'est au centre commercial, derrière le centre commercial de Merin-Cité. Nous allons faire un risotto avec les trois sœurs Francine, Christiane et Nicole. Risotto, un repas un peu italien avec entrée, tomate mozzarella, risotto et puis tiramisu framboise. Donc un menu bien alléchant. Et ensuite, nous passerons le film Selma, qui retrace un peu la vie de Martin Luther King. Nous avons aussi prévu quelques panneaux d'exposition. Donc, c'est une soirée un peu festive, avec un ciné-transat, donc convivial et vraiment en toute amitié. Donc, si vous avez l'occasion de participer demain dès 18h, donc, venez nous rejoindre derrière le centre commercial de Merin-Cité. Donc, une équipe de l'Église évangélique vous y attendra et vous y recevra en toute convivialité. Merci.
Je vous invite à vous lever, si vous voulez bien, pour cette parole de bénédiction que j'emprunte à 1 Corinthiens 2, verset 9. Intéressant, l'apôtre Paul fait référence à un texte qui n'apparaît pas dans notre Bible, mais visiblement, il compile une addition de textes d'Ésaïe pour dire ceci, en Corinthiens 2, 9. « Comme le déclare l'Écriture, ce que personne n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi personne n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux et celles qui l'aiment. » Dieu l'a préparé pour ceux et celles qui l'aiment. Je vous encourage à envisager cette nouvelle semaine sous la grâce, accompagnée par l'amour de Dieu, qui soit votre force, votre carburant. Allez dans la paix. Bon dimanche à chacun, chacune.
Merci.